Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, désormais tous les dimanches de 18h10 jusqu'à 19h30 en direct. Dans un peu plus d'un mois, le 31 octobre prochain, le Brexit entrera en vigueur au Royaume-Uni, avec ou sans accord, à moins d'un nouveau rebondissement. C'est d'ailleurs possible, tant les rebondissements se succèdent depuis ce référendum, il y a déjà plus de 3 ans, qui a rendu possible le Brexit. C'était le 23 juin 2016. Alors ce soir, sans préjuger de l'avenir, avec donc ou sans Brexit, cette émission va s'intéresser aux conséquences culturelles et digitales pour le Royaume-Uni, comme pour nous aussi, Européens, d'une mise en œuvre réelle de ce Brexit. Comment les industries créatives seront affectées, les quotas de cinéma, les tournées de concerts, les écoles d'art et leurs diplômes, l'impact sur les festivals, mais aussi l'avenir du British Council. C'est tout cela que nous allons essayer de passer en revue, de regarder et de comprendre. À la fois les risques pour le Royaume-Uni et l'Europe, mais aussi les opportunités. Nous étions cette semaine à Londres pour Soft Power et nous avons essayé, sans tabou ni parti pris, de passer en revue donc ces différentes conséquences culturelles du Brexit, et tel est le sujet principal de cette émission ce soir. Auparavant, dans une première partie d'émission, nous parlerons de Mémoire vive, l'ouvrage qui était très attendu d'Edward Snowden, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous sommes 3 ce soir. Emmanuel Paquet de L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric. Bonsoir
et moi-même. Nous sommes donc 3 à avoir lu ce livre et nous en débattrons. Les nouveaux métiers du web, Zoé Sfès. Autre sujet ce soir, avec votre invité.
Puisque je reçois Clara Doina-Schmelk, qui a coécrit avec Isabelle Rouen un livre qui s'appelle Les métiers du futur. Alors, la couverture nous vend un avocat augmenté, un éducateur de robots, un éthicien de l'IA.
C'est
le
ça.
Principe, c'est de se dire que dans 10 à 20 ans, beaucoup de métiers qui existaient aujourd'hui n'existeront plus, et surtout beaucoup d'autres seront nés. On va revenir sur ce livre qu'on peut globalement conseiller aussi bien aux gens qui ont 50 ans qu'à ceux qui ont des enfants de 8 ou 10 ans.
Oui, puis il faut aussi se soucier de l'avenir des gens de plus de 50 ans.
Et puis si on ajoute Tina Turner et Broadway, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Émission réalisée par Émilie Valla avec en régie Jean Frédérics. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet, avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui, car vous pouvez suivre Soft Power sur Twitter, au mot-clé justement Soft Power, sur notre playlist de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine, en vous abonnant gratuitement à ce podcast sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission par l'actualité des industries culturelles et du numérique, nous avons lu, je l'ai dit, les mémoires d'Edward Snowden et nous allons en débattre dans un instant. Mais juste avant, le livre. Permanent Record, c'est son titre, livre d'Edward Snowden, a été publié mondialement cette semaine et donc en France, sous le titre, le très beau titre d'ailleurs, Mémoire vive, par les éditions du Seuil. En 3 parties et 380 pages, l'ancien jeune agent contractuel de la CIA et de la NSA raconte comment il a travaillé pour le gouvernement fédéral américain et comment aujourd'hui il est au service de nous tous. C'est la première phrase de ce livre et elle est forte. Dans les pages qui suivent, Snowden décrit minutieusement sa vie en exil à Moscou, mais aussi auparavant sa jeunesse, ses idées politiques, l'école, sa passion d'Internet et comment il a rendu public en 2013 des documents américains ultra confidentiels qui ont permis de révéler au monde, monde étourdi, monde colère, un système global de surveillance de masse. Des milliards d'emails, des milliards de coordonnées téléphoniques, nous sommes tous intégralement surveillé constamment dès que nous faisons quoi que ce soit en ligne par le gouvernement américain. On a appris également que les Américains espionnaient des chefs d'entreprise. Le commissaire européen en charge de la concurrence, alors qu'il menait à cette époque une enquête contre Google et Microsoft, la présidente du Brésil à l'époque, et même le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel. Grâce à Snowden, la question de la vie privée sur Internet a été posée. Il y a un avant et un après Snowden dans l'histoire d'Internet. Ces révélations ont marqué la fin de l'innocence du web. Cette année-là, en 2013, le Washington Post a fait de Snowden son homme de l'année. Et depuis, en Europe comme ailleurs, c'est une vague d'inquiétude, sinon de consternation et de contestation. Le web a changé de nature, la peur de la surveillance de masse, le contrôle des données, la peur du flicage sont devenus des thèmes récurrents, grâce notamment au courage de ce jeune homme qui n'avait pas 30 ans au moment des faits et qui a changé l'histoire du web plus que quiconque avant ou depuis. Qui est Edward Snowden? Quelle fut sa vie avant sa trahison, son acte héroïque selon le jugement qu'on porte? Comment vit-il aujourd'hui? Le livre nous raconte cette vie depuis cette jeunesse jusqu'à l'exil russe. Celle d'abord d'un jeune geek américain très tôt passionné par le web plus que par l'école. Les pages qu'il consacre au web sont passionnantes. Il décrit les débuts d'Internet où le web était alors un ami, dit-il, quelqu'un de la famille. Un web qui était encore une communauté ouverte. Son premier ordinateur va devenir son meilleur ami. « Nous sommes aussitôt devenus inséparables », écrit-il, l'équivalent d'un frère ou d'une sœur, et aussi mon premier amour. Pour lui, le web et Internet sont du côté du bien. Dans ses chapitres où il fait l'archéologie du web, Snowden passe en revue les premiers outils, les premiers logiciels, les premiers sites qu'il visite, parfois même du porno soft gothique, porno soft goth. Il montre qu'on y était sous pseudonyme, libre et heureux quand on savait y nager comme un geek dans la toile. Edward Snowden a tort cependant lorsqu'il fait du web un monde à but strictement lucratif et réservé aux échanges peer-to-peer. Que les entreprises et les États s'en mêlent était inscrit dans l'ADN du web et ce n'est pas cela le problème. Que serait le monde d'ailleurs et le numérique sans le marché? Pas grand-chose sans doute. Snowden est un libertarien, un nostalgique du web communautaire, un peu rousseauiste, hein, le second discours de Rousseau. L'Internet devait être non marchand, écrit-il, pense-t-il, alors que en réalité, tout annonçait qu'il le deviendrait, un peu comme si l'agriculture devait servir à nourrir seulement les paysans et non pas le monde entier. Sa vie de jeune geek qui croit en son pays est bien racontée. C'est un Edward Snowden normal, presque banal que nous découvrons. Il ne boit pas, il ne se drogue pas, il n'a jamais fumé une cigarette, avoue-t-il. Un garçon comme les autres dont les deux parents travaillent, c'est un peu différent pour le gouvernement et même déjà pour les services secrets américains. Alors il apprend tout, lui tout seul, chez lui, pas très souvent à l'école, il apprend tout sur le web. L'Internet est son école et bien sûr, il arrête le lycée, Snowden devient un jeune pirate. Aujourd'hui, Edward Snowden vit à Moscou et il dit dans l'une des principales interviews accordées cette semaine que l'on va écouter que Moscou, je le cite, est en fait un peu comme New York, pour le meilleur et pour le pire. En même temps, je le cite encore, le problème à Moscou, c'est la politique, la question des droits de l'homme qui est terrible et beaucoup de gens ne réalisent pas que je n'ai pas choisi d'aller en Russie. J'étais en route vers l'Amérique latine et les États-Unis ont annulé mon passeport. Et quand j'étais piégé, enfermé dans l'aéroport de Moscou, j'ai passé 40 jours bloqué là, dans cet aéroport. Je ne sais pas combien de temps au maximum vous avez été, vous, retardé dans un aéroport, mais moi, ça a duré 40 jours. Vous imaginez, ce n'était pas le meilleur de mon séjour en Russie. Pendant ces 40 jours, j'ai fait, dit Snowden, 27 demandes d'asile à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Norvège. Et chaque fois qu'ils étaient prêts à accepter ma demande d'asile, les États-Unis intervenaient et menaçaient ces pays de conséquences, même si ce n'était pas légal. Et en fin de compte, vous pourriez vous dire qu'un agent, en tout cas un ancien agent de la CIA, un ancien agent de la NSA, le gouvernement américain, voudrait peut-être qu'il soit ailleurs qu'en Russie. Alors pourquoi ont-ils été si actifs pour me garder là à Moscou? Et la réponse est que c'est une stratégie politique de facilité et qui ne changera pas de sitôt. J'ai traduit son intervention et laisse maintenant le texte en anglais pour que chacun puisse mieux l'entendre dans ses propres mots avec sa voix. Edward Snowden interviewé via Skype par Trevor Noah pour le Daily Show. C'était ce vendredi.
So Moscow is actually a lot more like New York than you might think, for good and bad there. The problem is the politics in Russia, the human rights record of Russia are terrible. And a lot of people don't realize, and this is extensively covered in the book, I didn't choose to go to Russia. Right. I was en route to Latin America. The United States government canceled my passport. And then when I was trapped in the Russian airport, I spent 40 days stuck in an airport because I wouldn't cooperate with the Russian authorities. I don't know what the longest layover you guys have ever had, but 40 days. That was not the best part of the time I've spent in Russia. I applied for asylum in 27 different countries around the world, places like France, Germany, Italy, Norway. And every time they got close to letting me come, the United States government would call their foreign ministry, and it would be either then the vice president or then the secretary of state, and they would say there would be consequences if you let this guy in. Doesn't matter if it's legal, doesn't matter if the Universal Declaration of Human Rights says he has a right to seek and enjoy asylum. There's going to be consequences. We're not going to say what they are, but there will be punishment. And so what I ask you guys is, you would think, right, former NSA, former CIA, like the last place on earth the government would want me to be is in Russia. Why are they working so hard to keep me here? And I think the reality is it's just a convenient political attack that will never go away.
Edward Snowden est-il un traître ou un héros? L'opinion publique, en fait, est très divisée, plus divisée qu'on ne le croit même aux États-Unis. Au-delà de 30 ans, les Américains pensent à plus de 60% que Snowden doit être condamné pour haute trahison. En revanche, entre 18 et 30 ans, ils ne sont plus qu'un tiers à le vouloir. En gros, les jeunes Américains le soutiennent et les moins jeunes l'accablent. Il y a plus. Snowden est considéré comme un traître par les Républicains et sur la côte Est, à Washington notamment, mais il pourrait bien devenir un héros sur la côte Ouest, parmi les démocrates et dans la Silicon Valley en particulier. Traître ou héros, Edward Snowden a répondu à cette question. Je le cite, « Aux gens qui se demandent si je suis un héros ou un traître, je réponds que je suis juste comme eux. Les lanceurs d'alerte ne sont pas élus, nous ne sommes pas exceptionnellement doués. Ce qui nous a fait agir, ce sont les circonstances, ce sont les faits, ce que nous avons vu, non pas ce que nous sommes. Nous sommes élus par les circonstances. »
When people ask me if I'm a hero or a traitor, I say, look, I'm just an ordinary person. I'm like you. Whistleblowers aren't elected. We're not exceptionally skilled. The thing that puts us in place, the thing that makes the disclosure matter, are the facts. It's really about what you see rather than what you are. So right. We're kind of elected by circumstance.
Traître ou héros, disons-le ici, Edward Snowden est coupable. Et à nos yeux, il l'est même de haute trahison. Il serait ainsi dans n'importe quel pays. Il serait partout arrêté, condamné, et même sous certaines latitudes, fusillé. Mais la question se pose aussi autrement. Il a commis un crime, certes, mais ce qu'il a révélé était également un crime, y compris au regard de la Constitution américaine. Plusieurs juges et d'innombrables organisations des droits de l'homme, notamment aux États-Unis, estiment, comme Edward Snowden, que la collecte d'informations de masse de la NSA était arbitraire et qu'elle violait la Constitution américaine. Espionner des terroristes potentiels ne suscite en soi guère de débat aux États-Unis comme en France. Et c'est normal que des services secrets le fassent. Les cibles individuelles font consensus. Par contre, collecter systématiquement, massivement, des milliards d'informations sur des millions de citoyens sans avoir le moindre soupçon à leur égard est à la fois inédit et juridiquement contestable. Car en fait, il existe un amendement de la Constitution américaine sur lequel Edward Snowden revient longuement dans son livre. Le quatrième amendement, qui est très clair sur ce sujet. Il protège la vie privée et interdit toute forme de quête non raisonnable. Il y a plus. L'une des principales décisions de la Cour suprême américaine concerne la vie privée. Baptisée Katz versus United States en 1967, elle a étendu ce quatrième amendement aux technologies de la communication. Donc le traître est aussi un héros et vice-versa. Le héros est aussi un traître. On voit combien la situation est complexe. L'ouvrage est passionnant sur tous ces sujets, du début à la fin, et je retiens notamment la démonstration de Snowden, qui est très efficace et qui le démarque en fait de Wikileaks et de Julian Assange. Politiquement, Snowden n'est pas un anarchiste anti-système. Il se bat au nom de la Constitution américaine, l'inverse d'Assange, qui est lui contre l'Amérique. Snowden ne croit pas que toutes les données doivent être révélées au grand public. Il n'a jamais voulu nuire ni à des diplomates, ni à des espions américains, en donnant leur nom au grand public. Il se bat, par contre, pour lutter contre la transparence qui est oublié et qui, à ses yeux, n'a pas de sens. Il ne souhaite pas cette transparence totale, il souhaite juste qu'on sache ce que font les services secrets. Il se bat pour l'idéal d'un état de droit où les services secrets, justement, eux aussi, respecteraient la loi et obéiraient au pouvoir législatif et judiciaire, ce qui, à ses yeux, n'a pas été le cas. La suite maintenant. Eh bien, Edward Snowden, interviewé par le Daily Show ce vendredi, est revenu sur son exil et son éventuel procès. À la fin, mon but, dit-il, est de rentrer aux États-Unis. Et j'ai dit au gouvernement depuis le début que je reviendrai à une seule condition. Si je suis certain d'avoir un procès juste, un procès équitable. Il y a deux questions ici. Est-ce que la loi a été violée? Le fait de transmettre des informations classifiées à des journalistes. Mais il y a aussi une seconde question. Si la loi a été violée, était-ce justifié? Réfléchissez à cela. Si vous assassinez quelqu'un, par exemple, que vous dites à la cour que vous l'avez fait dans une situation de légitime défense, alors la justice peut dire que oui, vous avez tué quelqu'un, que vous avez violé la loi, mais que vous l'avez fait en tuant quelqu'un parce que c'était justifié. Le gouvernement défend l'idée que dans mon cas, il n'y avait aucune justification à parler aux journalistes, quelle qu'en soit la raison. De fait, ils interdisent par principe à la cour d'entendre cet argument. Vous ne pouvez pas même vous défendre par principe. On ne peut pas être défendu. Edward Snowden.
My ultimate goal will always be to return back to the United States. And I've told the government, actually, from year one, that I only had one condition for returning, and that's that I could get a fair trial. Now, people go, oh, well, what's a fair trial? What does that mean? And I think that's actually not that hard a question. There are two questions that come up in this case. One, was the law broken? And that's not actually really particularly the interesting question. Because the law in this case is simply was classified information given to someone who is not authorized to receive it, which is basically any journalist. It's the public. It's you. It's everyone who did not know that their constitutional rights were being violated because that was the secret. But there's another question there, which is, okay, if the law was broken, was it justified? And think about this. If you murder someone, you can tell the jury, well, they were trying to kill me. It was self-defense. The jury can go, well, yes, they did break the law. Yes, they did murder someone, but it was justified. The government argues that there is no justification for telling a journalist, no matter what. In fact, they forbid the jury from hearing why you did what you did.
Edward Snowden, Mémoire vive, vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors nous sommes à 18h28 en direct sur France Culture avec Zoé Sfès de France Culture, Emmanuel Paquette de L'Express. Vous avez lu aussi tous les deux ce livre, peut-être Zoé pour commencer après ma présentation avec un extrait d'interview de Snowden au Daily Show.
Alors c'est un livre que moi personnellement j'attendais énormément. Alors pour une raison simple, c'est que si vous êtes un peu intéressé à cette affaire Snowden, vous avez probablement comme moi, et je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas, vu le film de Laura Poitras qui s'appelle Citizen 4. Qui est en réalité un document complètement exceptionnel pour moi et dans l'histoire du cinéma et dans celui de l'enquête puisque Laura Poitras est la journaliste qu'Edward Snowden a contacté pour commencer à lui faire des révélations et au-delà du fait qu'elle est une journaliste d'enquête et qu'elle avait déjà des indiscrétions avec Washington, c'est une documentariste et donc ce film est incroyable parce que c'est un film qui met en scène Snowden au moment où les révélations vont être faites, sont faites puis les suites et on découvrait un peu on pressentait ce qu'était cet homme aussi, j'ai envie de dire idéologiquement, dans ses compétences. On voyait quelqu'un de très articulé, comme on dit en anglais. Moi, je trouve ce livre passionnant. Certains critiques ont été assez dures sur la première partie qui consiste à raconter son enfance. Or, pour moi, c'est vraiment un moment, toute la première partie du livre, jusqu'à ce que Edward Snowden s'engage et commence à travailler à la NSA et à la CIA. C'est un document qui vaut en soi, qui nous raconte ce que c'est qu'un jeune Américain dont les parents travaillent pour l'État, petit-fils de pionnier, puisqu'il est petit-fils de pionnier par les deux côtés, par sa mère et par son père, et comment il découvre l'informatique et comment tout ça, en fait, ne fait qu'un. C'est-à-dire que c'est cette fameuse culture américaine où la liberté est au centre de tout. Et l'amour de l'État dépend de l'amour de la liberté. C'est un petit peu l'idée. Edward Snowden ne cache pas son amour pour la Constitution américaine. Il la lit très souvent, même plus tard dans sa vie. Et ensuite, en fait, il a cette deuxième partie quand il commence à s'engager pour l'État, qui est le moment du 11 septembre. Moi, c'est un moment que je retiens dans ce livre. C'est le moment où Edward Snowden nous dit, mais moi, comme tout le monde, le 11 septembre, en plus, j'étais à Formi dans les locaux de la CIA. Et moi aussi, j'ai eu envie d'aider mon pays. Je suis devenue patriote et j'ai plié à cette idée de la peur et je me suis engagée dans l'État en tombant dans le même piège que tout le monde, y compris le gouvernement américain.
Et en montrant d'ailleurs que tout change à partir de là.
Que tout change à partir de là. Et c'est ça qui est
très intéressant. En termes de sécurité aux États-Unis et ailleurs.
Tout à fait. Et il découvre l'ampleur de ce changement quand ensuite il devient donc ingénieur système à la NSA puis à la CIA, souvent par le biais de boîtes privées qui sont des sous-traitantes.
C'est une partie
passionnante. Donc ça, c'est la partie, je vais appeler plutôt technique, mais sur la partie, disons, théorique et politique. Et on comprend assez vite, en fait, parce qu'on a eu toute cette première partie du livre, pourquoi en réalité, et ça, il le rappelle, quand il s'engage pour les services secrets, Edward Snowden ne jure pas son engagement sur la Bible, à ses employeurs, etc. Il le fait sur la Constitution. Et c'est ça, toute l'idée, c'est de dire, j'ai été effectivement un traître à mes employeurs, mais j'ai été fidèle à ce sur quoi j'ai juré quand je me suis engagé chez ces gens, c'est-à-dire la Constitution.
Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas cette Constitution.
Parce qu'ils ne la respectent
puisque
plus.
Puisque devant le Congrès, ils mentent et ils ne racontent pas, même peut-être au pouvoir exécutif, ce qu'en réalité ils sont
en train de faire. Donc pour moi, c'est très intéressant et c'est vraiment, ça explique très bien ce divorce qui va le mener à déclencher des crises d'épilepsie. C'est-à-dire que c'était pas un mec qui s'est réveillé comme ça un matin en se disant c'est une catastrophe. On voit comment, en fait, le fait de prendre conscience de tout cela le mine au quotidien, petit à petit, le pousse à déclencher des crises d'épilepsie et comment ça devient finalement, cette idée de révéler ces informations devient la seule solution, même pour survivre pour lui. Ça, c'est quand même très intéressant, notamment parce que, et le gouvernement et certains médias ont essayé de discréditer aussi ce personnage, on comprenait pas très bien pourquoi. Et l'autre partie qui est très intéressante, c'est la partie proprement technique de ce livre, c'est-à-dire à la fois comment il explique les strates, comment fonctionnent ces agences américaines que nous, particulièrement en France, on connaît très mal, comment il explique pourquoi, d'une part, le fait que ces agences ont eu la nécessité de se moderniser très vite, elles ont eu recours à des gens comme lui et les a fait monter trop vite. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il dit, c'est dans le livre à un moment donné, c'est incroyable, on m'a fait monter trop vite, on m'a donné trop d'argent, je suis devenu trop, entre guillemets, puissant, trop
j'étais
jeune.
J'étais un de ceux qui avait le plus d'informations parce que j'étais
un ingénieur système. Alors ça, c'est l'autre chose, mais au-delà de ça, il dit, il ne fallait pas me donner autant d'informations avant que je sois trop vieux et avant que j'ai pu devenir cynique. C'est ça qui est fou, c'est parce qu'il a été en mesure de voir ton information et pourquoi il l'a été, parce qu'il est ingénieur système. Et ça, encore une fois, quand on est peu familier de l'informatique, c'est un livre extrêmement didactique sur ce que c'est qu'effectivement le hardware, le software, pourquoi un ingénieur système qui est donc celui qui doit comprendre et en tout cas faire en sorte que le système fonctionne est paradoxalement habilité à voir des choses que des gens qui sont formés et qui sont dans le cœur même du métier du renseignement ne peuvent pas voir. Et c'est comme ça que lui...
Il y a les pages aussi où il explique comment il sort avec, alors non pas ses clés USB,
mais ses Rubik's
Cube. Il reste assez discret avec des cartes son en fait, éclat de flash je crois, et il fait sortir
carte
ça.
SD,
SD, voilà.
Cartes SD, celles sur lesquelles on enregistre.
Des mini SD même, et comment il les sort.
Il les sort de son
Rubik's Cube, donc voilà. Rappelons que ce livre est écrit avec Joshua Cohen, qui est un écrivain, donc je pense que ça a joué quand même beaucoup sur le processus d'écriture. Il le dit d'ailleurs clairement. Rappelons aussi que ce livre fait l'objet d'un procès immédiat qui a été déclenché par le gouvernement américain pour essayer de lui piquer une partie de ses royalties face à son avocat. Et rappelons aussi que le livre est très dur sur la presse, et notamment sur le New York Times, à qui il faisait pas confiance. C'est pourquoi il le donne finalement à Laura Poitras, mais aussi à Glenn Greenwald pour le Guardian. En Angleterre. Emmanuel Paquette.
Oui, alors ce que disait Zoé est exact. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur Snowden, c'est-à-dire il y a eu effectivement ce documentaire de 2014 qui a gagné un Oscar à Hollywood. Donc c'était un Oscar très politique.
Un moment incroyable.
Voilà, exactement.
Avec sa compagne qui monte sur scène. Alors que
mais il y a eu aussi le film d'Oliver Stone de 2016 qui s'appelait Snowden, qui retrace lui aussi les éléments de la vie d'Edward Snowden en tant que consultant extérieur donc chez Booz Allen quand il était à la NSA et la CIA. Et donc ce qui est clair un peu effectivement ce livre, c'est plutôt la personnalité qu'on connaissait pas vraiment de Snowden, ses motivations, ses ressorts, et puis cet éveil, c'est une forme d'éveil d'une conscience au fur et à mesure qu'il découvre des éléments au sein des services de renseignement. Alors moi, j'ai deux, trois petits problèmes avec le livre. Le premier, c'est qu'il mélange assez fréquemment ce qu'on appelle du renseignement intérieur et du renseignement extérieur. Le renseignement extérieur, aujourd'hui, toutes les agences de renseignement font à peu près ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne sont pas soumises aux lois de leur pays. Donc elles peuvent capter toutes les informations qu'elles veulent d'à peu près tout le monde, et elles n'ont rien à dire, et ça fait partie de...
Donc là, la Constitution américaine n'a rien contre, d'une certaine manière.
Et, elle s'applique qu'aux Américains, ouais. Par essence. Donc ça, l'ouvrage...
Ça, il explique quand même à un moment donné. Rapidement, je suis d'accord.
Très rapidement, et en fait, ça ne protège pas, du coup, les ressortissants français, allemands, etc. Son livre ne protège en rien des ressortissants non américains. Donc ça, c'est le premier point. Le second point sur le renseignement dit intérieur, c'est que la défense qui est avancée par les services, c'est qu'ils utilisent simplement ce qu'on appelle des métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est pas le contenu des conversations ou des échanges électroniques, c'est simplement les heures de connexion, avec quel terminal, depuis où. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à dire qu'ils n'ont pas écouté les Américains. Ce qui est vrai, ils n'ont pas écouté les Américains. Ils ont simplement collecté des métadonnées, donc des éléments constitutifs de type de connexion que vous pouvez avoir, combien de temps.
Et avec seulement si vous avez appris une preuve sur quelqu'un que vous pouvez aller voir
après,
les contenus.
Exactement.
Mais vous les avez quand même collectés.
Alors ce que dit Edward Snowden, c'est justement que les métadonnées, contrairement à ce qu'on pense, sont des éléments extrêmement invasifs et pervasifs en termes de... pour savoir ce qu'il y a dans votre vie privée. Par exemple, alors il ne donne pas cet exemple, mais c'est un exemple qu'on a vu assez souvent, une femme qui tombe enceinte et qui appelle une clinique pour se faire avorter. On comprend assez facilement, sans connaître le contenu des conversations, que quand elle appelle 2-3 fois cette clinique, c'est vraiment pour, a priori, se faire avorter. Donc, pas besoin d'avoir accès au contenu des données de temps en temps ou du contenu des conversations pour savoir ce qui se trame. Donc, c'est ce qu'essaye de dire Edward Snowden, et de dire qu'en fait, la technique, c'est pour ça que le terme métadonnées est un peu un terme abscon, mais permet de masquer des activités qu'on peut qualifier d'illégales des services de renseignement. Donc c'est de ce point de vue-là, le livre est relativement éclairant sur la politique intérieure des États-Unis, un peu moins sur la politique extérieure des États-Unis. Et puis, dernier point, on voit effectivement les différentes technologies qui sont mises en place, notamment la plus puissante, celle qui termine le livre, qui s'appelle XKickScore, qui est en fait un espèce de Google sur lequel vous rentrez le nom d'une personne et vous avez ses relations, tous ses échanges par mail, les vidéos qu'il a pu regarder, tous les contacts. Et donc, c'est là où, en fait, on est un peu pris de vertige parce que on peut remonter aussi dans le temps, savoir avec qui il est rentré en contact, une cible est rentrée en contact, pendant combien de temps. Donc, cet élément-là est assez perturbant et c'est ce qui déclenche à la fin. Ils vont en savoir plus avant de partir avec des éléments et de les donner à la presse. Alors, toute dernière petite chose, ce que je regrette aussi, c'est le questionnement sur ces révélations. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit dans un monde meilleur aujourd'hui ou pas ? Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment abordé dans l'ouvrage, c'est qu'on voit aujourd'hui que tout, quand on parle avec les services de renseignement, français en particulier, alors ils ont été surpris par, disons, les capacités techniques des Américains. Ils doutaient qu'ils étaient en avance, mais pas à ce point. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une course en fait. Il a déclenché une course à l'armement. C'est-à-dire que tous les pays du monde veulent rattraper les États-Unis. Tous les services de renseignement de la planète aujourd'hui ont des budgets qui explosent. Et ça, on le doit à Edward Snowden. C'est quand même la contrepartie du
paradoxal, ouais.
Paradoxalement, c'est qu'en essayant de nous protéger...
Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas que seulement les Américains, mais tout le monde écoute tout le monde.
Tous les pays essayent de développer leur arsenal technologique et essayent de recruter massivement.
Et d'une certaine manière, c'est aussi la critique qu'on peut faire au livre, c'est que ça prouve que les États-Unis est une vraie démocratie, puis c'est quand même paru partout, ça s'est su, alors qu'on n'a pas eu de Snowden chinois, on n'a pas eu de Snowden russe, on n'a pas eu de Snowden iranien.
Oui, mais en même temps, il le dit. D'ailleurs, à la fin, il y a quand même une espèce de moment conclusif dans son livre où il essaye justement de regarder avec une forme de modestie plus ou moins larvé, ce qui s'est passé. Ça, effectivement, les États-Unis sont une démocratie puisque cette question est là-dessus, mais mine de rien, les États-Unis le pourchassent toujours. Et d'autre part, il y a quand même eu le mérite d'attribuer, de mettre ce débat public sur la table. Et d'ailleurs, il le dit, il l'avait dit dans une interview, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il le redise pas là. C'est-à-dire que lui, il disait, je veux qu'il y ait débat public là-dessus, et peut-être, et d'ailleurs il le sous-tend, que les gens s'en fichent en fait, qui sont d'accord pour se faire surveiller pour la peur du terrorisme, mais au moins on aura eu le mérite d'en débattre.
Oui, c'est ça.
Et ça, voilà.
Devant le Congrès ou devant...
Et l'autre apport théorique quand même que au cours de cette émission, au fil de cette émission, on l'a bien vu, sur la notion de vie privée. Il revient sans cesse sur cette notion de vie privée, qui est quand même un terme, et il le dit, absolument absurde aujourd'hui quand on parle de vie privée, et il y a un très beau passage là-dessus sur ce qu'on considère comme de la vie privée, qui est une espèce d'idée par défaut. Lui considère qu'on devrait remplacer ce terme-là par le terme de liberté, puisque ce qui est aujourd'hui privé ne l'est vraiment plus. Son jugement sur le RGPD européen est assez intéressant. Il considère qu'à la fois l'Europe est fidèle à sa tradition et a fait un geste fort, et en même temps il relativise complètement cette politique. Il faut quand même dire qu'il a récemment, il y a 2 jours, 3 jours, redit qu'il aimerait bien être accueilli en France.
Oui, il avait déposé un...
L'Europe s'en tire pas trop.
Un asile politique en France notamment. Il y a même eu des pétitions pour que cet asile politique soit accepté. Patrick Veil avait contribué à ça notamment, et ça avait été immédiatement, je pense même avant la publication de la pétition refusée et par Manuel Valls, Premier ministre, et par François Hollande. Un mot peut-être sur le texte français. On est un peu déçus. Alors sans doute les traducteurs, qui sont deux, ont eu très peu de temps pour le traduire, mais il y a beaucoup de fautes, hein, beaucoup d'erreurs, fautes de frappe, mais aussi d'approximation dans la traduction, ce qui fait que le livre est un peu, parfois un peu, pas toujours fluide dans certains de ses aspects.
Pas sur les termes techniques, c'est ça qui est étrange.
Ah, si,
sur les termes techniques aussi, c'est vrai. Bon, bah alors c'est là que je suis une.
Non, par exemple, on ne dit pas chiffrage, on dit chiffrement.
Oui, on dit chiffrement.
Cryptage d'ailleurs.
On ne dit pas cryptage, on dit chiffrement, ça c'est vrai.
Non, mais c'est paradoxal. Des fois, ils gardent des mots anglais alors que les gens ne les comprennent pas forcément, ces mots très complexes. Et parfois, ils les traduisent ou ils mènent dans des pas de page des mots en anglais qu'on utilise tout le temps. Donc c'est un peu.
Parfois, ils gardent les deux, ils essayent de les données.
Mais bon, encore une fois, ils ont dû avoir, les éditions du Seuil ont dû leur donner 10 jours pour traduire ce livre à deux. On peut les excuser peut-être pour ça. Un dernier mot sur un passage assez étonnant, puisqu'au fond, dans ce livre, il y a un autre livre. Emmanuel Paquette, c'est celui de l'INSEE Mills.
Oui, effectivement, c'est la compagne d'Edward Snowden. À la fin, c'est vrai que c'est un personnage qui n'a rien vécu et paradoxalement tout subi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu.
Il n'avait pas mis dans la confidence.
Parce qu'il n'avait pas le droit.
Il avait tous les droits. Mais...
Ah non, il était tenu par des accords de confidentialité. Et quand il était travaillé à la NSA et la CIA, il ne pouvait pas dire ce sur quoi il travaillait.
Non, mais quand il a voulu parler, il ne l'a même pas dit à sa copine.
Non, pour ne pas la mettre en danger. Donc, voilà. Effectivement, il est parti. Et c'est elle-même a même pensé à un moment donné qu'il était parti pour quelqu'un d'autre. Parce qu'elle dit
elle
même
le dit dans son journal. Ouais.
Elle le dit dans son journal. Notre relation est peut-être terminée. Oui. Et du coup, c'est quelqu'un qui comprend a posteriori les changements d'attitude de son conjoint, ses changements d'humeur, ses changements aussi d'état de santé, puisque, comme le disait tout à l'heure Zoé, c'est là où il a découvert qu'il avait des syndromes, notamment d'épileptiques, effectivement. Et donc, on voit ses réactions, c'est des échanges épistolaires ou de mails extrêmement intéressants parce que, du coup, ça éclaire d'un autre point de vue cette histoire. Mmh. Et puis, bon, alors là, c'est un peu le happy end à la américaine, mais il se trouve qu'elle l'a rejoint en Russie et que finalement, ils se sont mariés. Donc, le livre se termine comme ça. Bon, là, ça se termine un peu en guimauve, mais c'est toujours sympa.
oui, c'est vrai de se dire que ça fait plaisir.
Mais bon, je suis sûr que Zoé, elle a beaucoup aimé.
Oh, mais pourquoi tout de suite? Alors, d'ailleurs, c'est parce que je suis la seule femme.
Pas du tout. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
Non, c'est parce que le livre est assez difficile et là, ça.
Ouais, mais non, mais sur simplement le journal de l'INSEE Mills, c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir tout simplement ce que les services de renseignement font quand Edward Snowden s'en va. C'est la partie qui nous manquait vraiment pour le coup, qu'on pouvait imaginer mais qu'on ne connaissait pas. L'enquête, les interrogatoires, et ils deviennent fous. On sent leur énervement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à croire qu'elle ne sait rien. Et ça c'est un moment assez jouissif. Et on se dit quand même qu'il est relativement fort, mais qu'effectivement il a fait un pari énorme.
Voilà, un livre important en tout cas. Mémoire vive, c'est signé d'Edward Snowden. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h42 sur France Culture, toujours dans l'actualité, un peu longue en ce dimanche 22 septembre. Emmanuel Paquette, vous avez tenté de comprendre ce qu'allait se passer dans nos vies avec l'arrivée possible, attendue, annoncée de la 5G. On n'arrête pas, on avait déjà la 3G, la 4G était à peine arrivée, qu'on passe à la 5G.
Oui, accrochez-vous parce que Donald Trump, il parle déjà de la 6G. Donc on va pour l'instant s'intéresser à la 5G. Il faut voir qu'aujourd'hui, à la fin juin, il y a eu 31 lancements commerciaux dans le monde. Ceux qui ont ouvert déjà un peu les hostilités, c'est la Corée du Sud et les États-Unis. D'ailleurs, les deux pays se sont un peu courus l'un après l'autre pour savoir quel serait le premier à proposer de la 5G sur son pays. Dans son pays, c'était une question un peu de soft power. Et ben, c'est la Corée du Sud qui finalement a lancé le premier ses services en avril, poussé par ses leaders nationaux, donc Samsung notamment et LG. Et aujourd'hui, donc, on voit plein d'opérateurs un peu partout sur la planète et plein de pays, notamment l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, qui ont mis en place des enchères, qui ont vendu des fréquences pour la 5G et les opérateurs qui commencent à déployer leur réseau plus rapidement qu'avec la 4G et surtout avec plus de terminaux. Aujourd'hui, il y aura d'ici la fin d'année une vingtaine de téléphones qui seront compatibles 5G. Au même moment au démarrage de la 4G, il n'y en avait que 3 sur le marché en 2012. Donc on voit que aujourd'hui, l'industrie, dès qu'une nouvelle génération arrive, elle se met tout de suite en branle pour déployer rapidement un réseau et puis pour proposer des terminaux pour que les utilisateurs puissent les utiliser.
Alors qu'en est-il au-delà du monde? Qu'en est-il de la France? Et pourquoi faire? À quoi ça va servir la 5G? En quoi ça va changer nos vies?
Alors, pour l'instant, on attend toujours le processus d'attribution des enchères en France. Donc, c'est l'ARCEP, le gendarme de Télécom, qui s'en occupe. Elle devait remettre des premières conclusions à la fin du mois de septembre. Et maintenant, on attend le calendrier d'attribution. Alors, selon Bouygues Télécom, ça pourrait arriver probablement fin d'année, même peut-être début d'année prochaine. Donc, on serait un des derniers grands pays européens à attribuer des licences 5G. Alors après, dans l'utilité de cette technologie, alors c'est vraiment une rupture par rapport à la 4G, puisque la 5G permet non seulement d'augmenter les débits sur votre téléphone, donc pour faire de la vidéo, pour passer des appels, ce qu'on appelle voice over IP, donc des appels de la voix sur IP, sur WhatsApp ou Facebook Messenger par exemple. Et puis surtout, il va permettre des applications dans des domaines industriels, notamment pour la voiture connectée, alors ça c'est pas pour tout de suite, mais également pour déployer des réseaux internes à des entreprises, que ce soit sur des centrales nucléaires, que ce soit sur des paquebots par exemple, pour essayer de faire du suivi de containers, où les containers arrivent, où ils sont livrés, quel est leur point de livraison, enfin faire un suivi direct de tout ce qui peut être connectable au réseau 5G. Et alors pour ça, la 5G permet ce qu'on appelle du network slicing, donc c'est saucissonner le réseau, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux gens comme vous et moi de se connecter pour se divertir, mais laisser une tranche de fréquence qui soit disponible que pour des utilisations industrielles et pour que là, il n'y ait pas de parasitage avec des gens qui veulent regarder des vidéos, etc. Donc on peut avoir une qualité de service assez importante pour les industriels et puis une qualité de service un peu moindre pour les particuliers.
En termes de spécificité, la 5G ?
Alors, au-delà du network slicing, il y a deux autres techniques aujourd'hui qui sont liées directement à cette technologie. Il y a ce qu'on appelle le beamforming. Alors, c'est important d'en parler parce qu'il peut y avoir des répercussions en termes de santé. En tout cas, c'est ce que pensent les Suisses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le beamforming ? C'est simplement une façon aujourd'hui du réseau de cibler directement le terminal qui est compatible avec le réseau 5G. Aujourd'hui, quand vous êtes connecté à un réseau 4G, c'est un peu comme si vous étiez sous une ombrelle ou un parapluie. Donc, tout le monde a la même couverture et tout le monde se partage le réseau. Demain, avec le 5G, vous serez directement ciblé par l'antenne. Alors, c'est un peu simpliste hein, ce que je dis, mais c'est directement le faisceau qui se dirige vers le terminal, qui le reconnaît et qui discute tout de suite avec lui, au lieu d'arroser un peu partout. Donc, le point positif, c'est que bah, du coup, la qualité est meilleure. Il y a moins de déperdition des fréquences. Le problème, c'est que vous êtes directement visé par l'antenne. Et alors, c'est là où, dans certains cantons suisses, il y a eu des plaintes pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes potentiels de santé autour de la 5G. Et même en France, aujourd'hui, la NFR, l'Agence nationale des fréquences, est en train de voir si effectivement autour de la 5G il ne peut pas y avoir des risques de santé pour les gens qui habitent autour et surtout pour les possesseurs de smartphones 5G.
C'est un peu technique mais c'est passionnant et ça risque d'ailleurs d'affecter donc nos vies mais aussi nos voitures, pourquoi pas nos frigidaires, tous utiliseront la 5G. Pourquoi d'abord iPhone ne proposera pas la technologie 5G tout prochainement dans les nouvelles versions d'iPhone et pourquoi Free et Bouygues ne sont pas très satisfaits ?
Alors, concernant Apple, effectivement, le nouvel iPhone 11 qui vient d'être dévoilé, enfin la gamme des iPhone 11 ne sont pas compatibles 5G, simplement parce que Apple a un désaccord avec un de ses fournisseurs, Qualcomm, qui est le plus avancé en termes de modem 5G. Donc, Apple s'est retourné vers un autre fournisseur, en l'occurrence Intel, et Intel a mis du temps à développer ce modem 5G, au point qu'Apple a décidé finalement de racheter la division d'Intel et de développer en interne son propre modem et de tout contrôler pour ne plus dépendre de Qualcomm. Donc on en est là, et donc le prochain iPhone, celui qui sera dévoilé en septembre 2020, sera compatible 5G. Donc voilà pour l'instant ce qu'on sait concernant Apple. Sur les fournisseurs d'accès et sur les opérateurs télécoms en France, Bouygues et Free ont une énorme crainte, c'est-à-dire qu'on revive en France ce qu'on a vu en Allemagne et en Italie, c'est-à-dire des enchères qui sont montées à des niveaux stratosphériques. En Allemagne, les opérateurs ont dépensé 6,5 milliards d'euros pour acquérir ces fréquences. Et en Italie, c'était quasiment pareil, un peu plus de 6 milliards pour acquérir les fréquences. Il y a qu'en Angleterre, le pays le plus libéral, où là, ils n'ont dépensé qu'1,4 milliard de pounds. Donc, ça veut dire 1,6 milliard en dollars, 1,7 milliard en dollars. Et donc, la crainte, c'est qu'effectivement, il y a une course à l'échalote et que Orange et SFR, qui est le plus de ressources financières, achète le plus de fréquences. Donc, ce qu'a fait l'ARCEP, le gendarme de télécom, il a dit qu'il y aurait un prix fixe sur un premier bloc de fréquences de 40 MHz. Et sur les 60 MHz restants, et ben là, ça serait des enchères. Et là, c'est ce que veulent pas Bouygues et Free, en disant qu'ils pourraient disparaître, ils pourraient mourir, si on ne change pas ce mode d'attribution. C'est-à-dire, si on ne réserve pas 60 MHz à tous par défaut, et puis 40 ou plus MHz après aux enchères. Et ça, ce sera le prix qu'il décidera.
Eh bien, merci Emmanuel Paquette. C'est un peu technique, mais encore une fois, ça affecte nos vies. C'est des questions qui nous concernent. Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
18h49 en direct. Zoé Sfez, maintenant on parle des métiers de l'avenir.
Oui, dans cette nouvelle case culture numérique, je reçois aujourd'hui Clara Doina-Schmelk. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez là avec nous depuis le début, on entendait votre voix. Vous êtes journaliste notamment à Intégral, vous êtes spécialiste des médias, vous êtes philosophe de formation et vous êtes là parce que vous avez signé avec Isabelle Rouen un livre qui s'appelle Les métiers du futur, sous-titré Que feront nos enfants demain. C'est intéressant parce qu'Isabelle Rouen, c'est une femme qui a fondé un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisée dans la transformation digitale. Alors ce livre, je crois que vous l'avez écrit à partir d'un constat que font avec vous et qu'ont fait souvent divers instituts ou think tanks qui nous donnent depuis plusieurs années des chiffres qui ont l'air de se recouper. L'Institut du futur qui nous disait que d'ici 2030, les élèves qui sont aujourd'hui scolarisés, eh bien à 85% feront un métier qui n'existe pas encore. Il y a d'autres chiffres qui sortent, par exemple ceux de McKinsey qui nous dit qu'en 2022 la moitié des heures travaillées en France seraient automatisables et donc remplaçables, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront remplacés. Et donc en fonction de avec ces espèces de moments de prédiction, vous essayez de comprendre ensemble toutes les deux comment ces métiers vont évoluer. Vous avez essayé de comprendre de quel type seraient les grands changements selon trois typologies. Alors, lesquelles sont-elles et pourquoi vous avez essayé de penser les choses comme ça?
Alors, on a essayé de penser les choses comme ça pour plutôt anticiper que prédire ou scénariser des vies sociales complètement bouleversées. En fait, le marché de l'emploi, c'est sûr, est affecté par les nouvelles technologies numériques, ça c'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, la moitié des tâches vont être automatisables, mais pas les personnes. Les personnes vont simplement être amenées à penser leur métier différemment. Et le risque aussi, c'est de ne pas penser en manière décomposée, en parlant par exemple de contenu, en parlant de production. Il ne faut pas non plus se transformer nous-mêmes en machine. La notion, c'est pour ça qu'on a appelé le livre « Les métiers du futur » et non pas « L'emploi du futur ».
D'ailleurs, vous ne parlez plus d'emploi, vous parlez d'employabilité, mais ça c'est un autre
sujet. Non, ça c'est autre chose. Mais on a bien parlé de métier pour que la notion, par exemple, on parle de l'enseignant. Je vais tout de suite embrayer. On a distingué une typologie de transition que connaissent les métiers. L'évolution, la révolution et l'innovation radicale.
Donc l'évolution, c'est des métiers qui auront changé. En tout cas, il faudra s'être formé ou avoir des compétences nouvelles. La révolution, c'est des métiers qui vont beaucoup changer, voire radicalement changer. Et l'innovation, c'est des métiers qui aujourd'hui n'existent pas du tout et qui existeront demain, c'est ça?
Alors, qui n'existent pas du tout ou qui commencent à exister. Comme par exemple, on va y revenir, à l'éducateur de robots. Donc on n'a pas inventé, hein. c'est pas un livre de fiction, ce n'est pas une dystopie. C'est simplement, on a essayé d'esquisser, de sonder l'existant en procédant à des témoignages de personnes très diversifiées et en traçant vraiment des métiers. Alors, les métiers de l'évolution, ce qu'on appelle les métiers de l'évolution, ce sont surtout les métiers de la transmission, comme l'enseignant ou le journaliste, qui vont avoir des compétences nouvelles liées au digital, au numérique, mais sans pour autant non plus décomposer leur métier, par exemple en producteur de contenu, accompagnant de l'élève d'un côté, et autre chose où il pourrait être neuropsychologue d'un côté. Non, ce sont simplement des métiers qui vont devoir s'ouvrir à un mode de relation différent à cause du numérique.
Voilà, donc le cœur du métier, disons, va rester. Alors, on peut prendre l'exemple du journaliste, on en parle très souvent. Vous postulez, il y a des fiches métiers, je dis juste que sur la forme du livre, vous prenez des exemples avec des fiches métiers, où vous essayez de détailler les compétences qu'il faudra avoir et ce sur quoi il faudra miser. Vous parlez de soft skills, en l'occurrence le journaliste de demain, on est dans un monde où effectivement, on l'a vu, aujourd'hui encore le groupe Reworld continue de licencier et se sert déjà de l'intelligence artificielle pour faire de la rédaction pure. Le journaliste de demain, si on parle d'un demain de dans 10 ans, quelles sont ses caractéristiques s'il a évolué?
Alors, il a évolué, je pense que ses caractéristiques sera de penser de manière moins individuelle, en groupe, dans sa rédaction, qui peut d'ailleurs se présenter sous la forme d'un archipel. Les journalistes ne seront pas forcément tous dans un même bureau autour de la table, de manière plus horizontale avec ses lecteurs. Et grâce à des outils du numérique, mais il ne doit pas devenir lui-même automatisable ou automatisé dans sa façon de produire les articles. Il doit y avoir une dimension humaine qui ne fera que s'affirmer.
Alors, on chroniquait, et là, ici même, il y a deux semaines, un livre de Kai Fu Lee, qui est le plus gros investisseur dans l'intelligence artificielle en Chine, qui, lui, donc, passe son livre à expliquer que le combat de l'intelligence artificielle a commencé et que c'est la Chine qui le gagnera et qu'en 2050, selon lui, plus de 80% des postes, effectivement, du travail, en tout cas, sera automatisable. Lui postule que les seuls métiers qui pourront survivre sont les métiers qui sont orientés, qui sont les métiers du soin. C'est-à-dire, c'est les métiers qui sont orientés de l'humain à l'humain. En l'occurrence, des professeurs, les soignants et d'autres métiers qui s'orienteront de plus en plus vers ce que lui appelle l'humain. Alors, il y a évidemment des biais et des limites à cette espèce de dystopie. Est-ce que vous, c'est ce que vous anticipez ou pas?
Alors, sur le fond, je pense qu'il est absolument lucide, puisque le métier, justement, c'est ça, c'est la relation, c'est le travail est une médiation entre l'homme et lui-même. Donc, je pense qu'il a raison. Il veut signaler que certaines tâches, par exemple, caissiers, vont être automatisées, et les caissiers vont se transformer en conseillers de vente, ce qui est déjà le cas, ce qui existe déjà. Mais là, le danger de, je pense que ce qu'il prévoit est en train de se produire déjà. Le danger, c'est la précarisation dans cette période de transition, la précarisation de certains employés qui ne vont pas être orientés vers la recherche et le développement au service de l'humain, mais ou le service hautement qualifié, mais à qui on va faire des tâches. De travailleurs de plateforme, il y en a 260 000 en France qui sont précaires. On essaye maintenant que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier du code du travail, avoir une sécurité sociale, une retraite. Et ça, ça va vraiment être l'enjeu. Là, c'est les métiers du futur, c'est dès aujourd'hui.
Ouais, et avec évidemment une question d'organisation sociale.
Qui n'est pas en fait un futur à deux vitesses.
C'est ça. Et un futur avec une idée, enfin avec une dystopie, ou une dystopie pas du tout. Il y a un déséquilibre entre les salariés et les non-salariés.
Alors les salariés et les non-salariés, et au contraire les freelances, on va dire, qui pourront choisir leur métier, qui auront la chance de pouvoir se former tout au long de leur vie, qui sauront un peu sonder les nouvelles compétences à avoir et qui vont pouvoir anticiper, et les autres qui seront moins renseignés, qui seront isolés sur le plan géographique, mais aussi sur le plan académique, et qui vont devoir être victimes de cette précarité et être employés par Uber, Deliveroo, à leur risque.
Bah alors, je fais une petite digression, on reviendra à la fin sur les métiers dits de l'innovation. Aujourd'hui, sur la formation en France, vous le dites, alors il n'est plus question aujourd'hui d'appréhender ou de souhaiter l'emploi à vie, il faut souhaiter l'employabilité à vie, c'est-à-dire qu'il faut continuer à apprendre en permanence. Comment est-ce que vous regardez la manière dont en France on est paré ou pas face à ces évolutions, aussi bien au niveau du recrutement? On sait qu'on a une grande religion du diplôme en France, et qu'on a plus, quand on engage quelqu'un en général, on l'engage sur un diplôme moins que sur des compétences, comme c'est le cas par exemple chez les anglo-saxons. Et du point de vue justement de ces grandes réformes de la formation, est-ce que vous estimez que les besoins, en tout cas comment est-ce qu'on peut se former, se garantir l'idée qu'on pourra continuer à se former?
Ouais, ce qui est bien en France, là on parle des pays anglo-saxons, en France on a quand même quelque chose qui s'appelle l'instruction publique, et qui est en fait une instruction qui nous permet d'être employable à vie sans être employé de telle ou telle entreprise pendant 5 ans et puis après jeté. L'instruction publique, c'est un socle commun qui n'est pas justement des compétences limité, mais qui nous permet d'avoir toute notre vie des ressources pour développer des nouvelles compétences. Et c'est pour ça qu'il faut absolument garder cette spécificité française d'instruction publique.
Mais puis il faut après, changer sur le recrutement.
Et après, sur le recrutement, je trouve qu'il y a eu des progrès quand même. Maintenant, dans n'importe quel entretien d'embauche, on vous demande oui vos diplômes pour voir à peu près l'évolution que vous avez suivie, mais aussi vos compétences, quelle est votre expérience. Ah bon, vous avez travaillé là, c'est intéressant. Je pense que les mentalités évoluent, et le diplôme, c'est seulement un aspect du recrutement. La formation tout au long de la vie, elle commence à se faire, notamment avec Pôle emploi, avec des instituts qui forment les adultes. Là, on a remarqué qu'il y a de plus en plus d'adultes qui se forment tout au long de la vie. Donc je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens.
Alors, parmi les deuxièmes types de métiers que vous listez, vous parlez de la révolution. Là, vous faites un long chapitre sur le management, qui selon vous va beaucoup changer. Et puis j'aimerais peut-être que vous nous parliez de ces métiers de demain, qui effectivement sont très poétiques dans les noms que vous leur donnez, hacker éthique ou éducateur de robots. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le recrutement et sur ces métiers de demain?
Alors, sur l'éducateur de robots, alors ça, c'est très poétique, mais ça existe déjà. En fait, on s'est aperçu que les objets techniques ne sont pas de simples automates. Ça, c'est depuis les années 50. Donc, les robots, il ne suffit pas de les programmer.
Alors,
il faut aussi, par exemple, pour qu'ils règlent des problèmes difficiles, comme par exemple détecter des maladies, ou simplement devenir des algorithmes de recommandation pour l'information ultra personnalisée. et qui suivent vraiment l'évolution de chaque lecteur. Par exemple, là je parle d'un journal, d'un média en ligne par exemple. Le robot, justement, on va lui apprendre à conseiller. Donc à presque avoir des qualités humaines. Donc ça, c'est l'éducateur de robot. Comment on l'éduque? Avec des données et des boucles de rétroaction. Donc comme le robot est un peu idiot, il n'a pas d'intelligence, contrairement à l'expression intelligence artificielle est assez
ce n'est pas juste.
Prête à confusion.
Mais, alors je pose la question autrement, on sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle essentiellement de deep learning, donc c'est du deep learning. D'apprentissage profond. Les algorithmes ne suffisent pas, il faudra toujours qu'on ait un humain derrière, ça c'est la thèse d'Antonio Casilli.
Oui, il faut mettre un humain derrière chaque robot, et un robot derrière chaque robot qui éduquerait les robots.
Alors peut-être pour conclure ça avec vous, Clara Doenaschneck, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce que vous préconisez d'investir, c'est-à-dire ce que vous appelez vous les soft skills? De quoi s'agit-il?
Alors les soft skills, c'est ce qu'on appelle depuis des siècles, à mon avis, le caractère. C'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants qui vont devoir toute leur vie évoluer, se changer, leur apprendre des choses beaucoup plus... Bah, c'est ces Montaigne, en fait, hein, tout simplement.
Une éducation, On revient à Montaigne.
C'est une éducation complète. Et on dit le mot compétence, c'est parce que c'est une optique de management, mais en fait, il est réducteur. Il faudrait parler plutôt d'épanouissement personnel et surtout de ressources. Toujours pouvoir se dire, tiens, bon, bah là, ce métier, il va plus exister. Quelles sont mes ressources personnelles dans toute l'expérience que j'ai eue dans ma vie, professionnelle?
Le fait d'être sympathique, la musique, peut-être une ressource, c'est ça que vous
voulez dire. Le fait d'être sociable, tout ce qui est humain va pouvoir se régénérer, en fait.
Merci beaucoup Clara Doenaschneck, vous êtes journaliste, je rappelle que vous signez ce livre « Les métiers du futur » qui est paru aux éditions First Edition. C'est avec Isabelle Rouen qui est donc elle-même fondatrice d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent. On vous invite à l'acheter parce qu'il y a de jolies fiches métiers avec de bonnes idées dedans.
Merci.
Il est 19h sur France Culture, vous écoutez Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, désormais tous les dimanches, nouvel horaire de 18h10 à 19h30. Dans un instant, Soft Power, dernière partie de cette émission, on parle du Brexit culturel et du Brexit numérique, tout ça en direct sur France Culture.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Everyone knows who won, but not everyone knows how.
We are about to ask the biggest question in a generation. In or out? And we need a leader.
We need to understand who our voters are.
Appeal to their hearts. People are feeling angrier, ignored.
Is it immigration? You could be honest. Is it race? Which countries don't you like?
New people come in.
We get squeezed out.
We want to return to a time when we knew our place, when things made sense. Fictional or not?
À l'instant, un extrait de la bande-annonce de la série Brexit qui a été diffusée depuis le printemps dernier, à la fois en Angleterre mais aussi en France sur Canal+. Alors dans un peu plus d'un mois, le 31 octobre prochain, le Brexit entrera en vigueur au Royaume-Uni avec ou sans accord, à moins d'ailleurs de nouveaux rebondissements. Il y en a eu beaucoup depuis ce référendum du 23 juin 2016. Dans cette dernière partie d'émission, et sans préjuger de l'avenir, donc avec ou sans Brexit, on va s'intéresser aux conséquences culturelles et digitales pour le Royaume-Uni, comme pour nous, Européens, dans le cas d'une mise en œuvre réelle du Brexit. Les industries créatives vont-elles être affectées? Les quotas de cinéma, les tournées de concerts, les écoles d'art, et même le British Council? C'est de tout cela que nous allons essayer de parler, de comprendre et de débattre. Pour commencer, je vous propose de partir tout de suite en Grande-Bretagne avec notre correspondante Marina Darras, donc en direct de Londres. Bonsoir Marina.
Bonsoir.
Alors est-ce que on pourrait peut-être commencer tout simplement de manière plus générale par évoquer le Brexit? On en est où aujourd'hui dans ces débats autour du Brexit et de la question du deal ou du no deal?
Eh bien, déjà, on peut rappeler qu'il reste 39 jours avant la date programmée du Brexit, qui est le 31 octobre. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour trouver une solution politique aux problèmes que pose le Brexit, et ils sont nombreux. Boris Johnson, qui a été élu Premier ministre cet été, est engagé notamment sur deux fronts. D'un côté, le front européen, où les négociations sont toujours au point mort. Boris Johnson a rencontré le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, cette semaine, mais les choses ne semblent pas pour autant s'arranger. La situation est toujours à peu près la même que sous Theresa May. Soit le Royaume-Uni décide d'adopter l'accord négocié par le précédent gouvernement pour acter d'un divorce à l'amiable, soit il n'y a pas d'accord de trouvé. Et là, on a affaire à un Brexit dur, très certainement le 31 octobre, sans tarifs préférentiels ni accords commerciaux privilégiés. Bref, un divorce dur qui aura un coût très élevé. Le problème, c'est que le Royaume-Uni ne veut pas de cet accord de sortie qui avait été négocié par Theresa May à l'époque, puisqu'elle avait proposé cet accord au Parlement à 3 reprises et qu'il avait été rejeté à 3 reprises. Ce qui bloque vraiment depuis des mois, c'est pas cet accord en lui-même, c'est un point particulier de cet accord, ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité nord-irlandais, qui doit régler le problème de la frontière entre la République d'Irlande, pays européen, et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et qui devra donc sortir de l'UE. Alors l'UE demande en ce moment au Royaume-Uni de proposer des alternatives à ce fameux backstop pour pouvoir signer un autre accord qui aurait le potentiel de passer l'étape du vote parlementaire. Mais rien n'a pour l'instant été formulé de manière officielle. On entend dire dans les rangs, pro-Johnson, pro-gouvernement, que c'est une stratégie du Premier ministre qui proposera certainement une solution viable à la toute dernière minute pour forcer les Européens à accepter. Bon, c'est une possibilité, mais toujours est-il que pour l'instant, on n'a rien vu de vraiment concret de la part des Britanniques. Et de l'autre côté, Boris Johnson se bat contre un Parlement plutôt hostile. Il faut dire qu'il a décidé de suspendre le Parlement britannique pendant 5 semaines pour empêcher les députés de lui mettre des bâtons dans les roues. Cela a poussé les députés à voter dans la hâte, au début du mois, une loi pour l'empêcher de faire sortir le Royaume-Uni de l'UE sans accord. Alors cela veut dire que Boris Johnson serait hors la loi si, faute d'accord, il ne demandait pas une extension de la fameuse échéance du 31 octobre. Mais Boris Johnson avait déjà dit, de manière très très imagée, qu'il préférerait être mort dans un fossé plutôt que de demander une extension. Donc les choses sont toujours très ambiguës et compliquées. Les députés ont également rejeté la tenue d'élections anticipées, ce qui veut dire que Boris Johnson ne peut pas renouveler le Parlement. Il avait perdu la majorité parlementaire et se retrouve donc en difficulté pour faire voter quelques lois que ce soit. En fait, pour le moment, le Premier ministre a perdu absolument tous ses votes et le Parlement est toujours suspendu, et ce jusqu'au 14 octobre où, sauf développement extraordinaire qu'on aurait bien du mal à écarter, la reine Elisabeth II devrait s'exprimer et donner au gouvernement l'occasion de proposer finalement un nouveau programme législatif.
Alors qu'est-ce que dans ce contexte complexe que vous venez d'évoquer, compliqué, qu'est-ce que le gouvernement promet de faire pour les industries de la culture en cas de Brexit, et notamment en cas de Brexit sans accord?
Oui, c'est surtout en cas de Brexit sans accord que pour l'instant que les craintes se profilent. Alors il faut avouer que le gouvernement est tellement pris par cette crise parlementaire, politique et démocratique que très peu de choses se passent à côté des querelles politiques. Récemment, Boris Johnson a promis des investissements miraculeux à droite, à gauche, et a dit qu'il soutiendrait bien évidemment l'industrie de la culture et des arts, notamment financièrement. Il reconnaît, Boris Johnson, que ces industries du soft power sont des industries bénéfiques, plus que bénéfiques pour le Royaume-Uni. Cela, il n'y a aucun doute sur cela. Le problème, il n'est pas que financier. Par exemple, si on prend le cas de Creative Europe, qui est un programme européen qui vise à soutenir et à favoriser la création dans les secteurs de la culture, de l'audiovisuel, eh bien, Creative Europe a un aspect de financement, c'est certain, il est loin d'être négligeable, puisque le Royaume-Uni a reçu près de 80 millions d'euros depuis 2014, presque 16 millions rien qu'en 2018. Mais ce que les entreprises, évidemment les plus petites entreprises en premier, craignent le plus, c'est de perdre l'accès à ce réseau de professionnels qui permet les collaborations, les diffusions dans plusieurs pays, le partage de talents et des connaissances. Et ça, même si le gouvernement s'engageait à trouver un moyen de remplacer ce financement européen d'une manière ou d'une autre, le réseau, lui, serait irremplaçable.
Marina Daras est en direct, notre correspondante à Londres. Pour terminer, Marina, que craignent finalement les entreprises du monde de la culture, des médias et des technologies? Qu'est-ce qui nourrit leurs incertitudes principales?
Alors, majoritairement, l'inquiétude tourne autour de la liberté de circulation. que ce soit la liberté de circulation des personnes comme des marchandises. Alors autour des personnes, c'est certainement parce qu'il faut trouver des talents, notamment dans le monde du cinéma, de la musique, des experts dans le monde des musées, mais aussi par exemple dans le monde des jeux vidéo, de la technologie. L'Angleterre, c'est un incubateur géant pour les start-up, surtout dans les nouvelles technologies, et beaucoup viennent de l'étranger pour monter leur micro-entreprise. Donc trouver les bons talents, ça risque d'être un problème si la circulation est interrompue, la libre circulation. Il y a aussi des craintes vis-à-vis de la circulation des marchandises, parce que notamment dans le monde des musées, la circulation des objets, c'est ce qui rapporte de l'argent. Le British Museum, par exemple, doit sa réputation aux collections qu'il traite et qu'il reçoit partout dans le monde. Au cours des 10 dernières années, le musée a ouvert 92 expositions itinérantes internationales dans 21 pays différents. Alors, combien ça va leur coûter de faire ces expositions en Europe en cas de Brexit sans accord? Et est-ce qu'il y aura des quotas, des nouvelles restrictions? Et pire encore, est-ce qu'on voudra bien leur prêter des œuvres d'art, comme c'était le cas, hein? Il y a eu un problème avec un certain tableau de Van Gogh qui a failli ne pas être prêté à la dernière minute à la Tate Moderne de Londres pour une exposition, de peur de le voir coincé aux douanes lors de son retour ou de devoir payer des taxes incroyables pour pouvoir finalement le récupérer. Tout ça, eh bien, ça ne fait que nourrir les craintes et les inquiétudes. Et on n'a rien donné vraiment pour calmer les craintes des entreprises.
Bien, merci infiniment Marina Adara. Je rappelle que vous êtes correspondante pour Radio France à Londres et vous étiez donc en direct ce soir. Alors nous étions également pour Soft Power cette semaine à Londres et nous avons essayé, sans tabou ni parti pris, de passer en revue ces différentes conséquences culturelles du Brexit avec plusieurs des acteurs qui réfléchissent ou tentent de préparer cette éventualité. Harry Prabhu est l'un des responsables et porte-parole de la Fédération des industries créatives au Royaume-Uni. Nous l'avons rencontré jeudi à Londres pour savoir si ces industries, eh bien, si elles étaient prêtes pour le Brexit.
Je pense qu'il y a un certain nombre de défis qui se posent à nous, au sein de notre pays en particulier, avec le risque du Brexit sans accord, qui arrivera sans doute le 31 octobre prochain. D'abord, pour les industries culturelles, le premier problème concerne les tournées des artistes, qui chercheraient à s'installer dans l'un des États membres de l'Union européenne après le Brexit. Dans l'hypothèse où un accord serait trouvé, des mesures de transition pourront être instaurées jusqu'en fin d'année 2020. En l'absence d'un accord toutefois, il y aura certainement 27 arrangements pour les artistes britanniques qui voudraient tourner dans l'Union européenne. Ce serait problématique, car les délais pourraient être conséquents pour l'obtention du visa, il pourrait y avoir des restrictions dans le matériel utilisé et emporté, ou encore des limites quant à la durée de leur séjour dans ces pays de l'Union européenne. La situation pour le moment est incertaine, et il est très difficile d'imaginer ce à quoi ressemblera la situation. Une grande part des industries, des orchestres aux producteurs cinématographiques, en passant par les mannequins pour la mode, ces industries dépensent une grande part de leur montant et de leur temps de travail à voyager au sein des autres États membres. Pour y travailler de façon temporaire, par exemple, ou pour des projets de court terme. S'ils ne sont plus en mesure de le faire, les conséquences en ressortiront globalement sur les filières des industries créatives du pays.
Comment est-ce que vous voyez la relation entre la Grande-Bretagne et les pays membres de l'Union européenne à partir du Brexit, s'il a lieu, et quels peuvent être les problèmes peut-être plus techniques qui peuvent apparaître pour les artistes, s'agissant des qualifications, s'agissant des bourses, des subventions, évidemment les programmes aussi de l'Union européenne qui aident les artistes ici. Comment vous voyez ces différentes questions?
Nous souhaitons que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne soient les plus cordiales possibles pour le bénéfice des industries culturelles. Par exemple, l'un des apports principaux de l'Union aux industries, c'est le soutien à environ 3000 projets culturels réalisés par des entreprises britanniques, que ce soit dans le théâtre, dans la production cinématographique et le développement de jeux vidéo. L'Union européenne a ainsi alloué près de 90 millions d'euros entre 2014 et 2018, et ces fonds sont incroyablement importants et qui comptent énormément pour chacun des secteurs. Nous voulons nous assurer que le Royaume-Uni négocie avec l'Union européenne pour aboutir à un partenariat fort des deux côtés et si possible maintenir ses subventions. Toutefois, ce dont nous voulons également être sûrs, c'est qu'il y aura une forte reconnaissance et une forte régulation entre les entreprises de ces secteurs. Par exemple, une reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes entre le Royaume-Uni et l'Union. Une reconnaissance des normes de données et des flux de ces données entre les clients et les consommateurs. Ou encore, la reconnaissance de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur pour maintenir les droits des artistes. Autant de domaines dont il nous faut assurer qu'ils ne seront pas remis en cause avec le Brexit.
Comment est-ce que vous voyez, en termes d'immigration, les difficultés que les artistes vont rencontrer, mais peut-être aussi les opportunités que le Royaume-Uni offrira?
Pour le moment, le système d'immigration pour les citoyens provenant de pays hors de l'Union européenne est assez complexe. Pour obtenir un contrat permanent au Royaume-Uni, il faut avoir un salaire d'au moins 30 000 pounds par an, ce qui est un vrai défi pour les secteurs créatifs. Car s'il y a un grand nombre de personnes très qualifiées qui jouent un rôle important dans les marchés de niche, toutefois, les personnes les plus qualifiées ne sont pas toujours les mieux payées. Ce qui pourrait mettre en danger la capacité des industries britanniques à explorer de nouveaux domaines et à laisser s'échapper les meilleurs talents du monde à cause de ces restrictions financières. En faisant rentrer les artistes provenant des États membres de l'Union dans la même catégorie que le reste du monde, nous allons perdre en plus les talents européens. C'est toute l'économie britannique qui pâtira de ses besoins en talents des industries créatives. Donc, ce que nous voulons, c'est profiter de cette opportunité pour réformer le système existant pour les citoyens européens et du monde. Nous aimerions créer un système plus juste et revoir le conditionnement de l'immigration à ces grilles salariales qui ne reflètent finalement pas la vraie qualité ni les vraies compétences des travailleurs et des artistes.
Voilà, à l'instant, l'un des responsables et porte-parole de la Fédération des industries créatives au Royaume-Uni.
Prime Minister, you wanted a copy of your withdrawal agreement.
Precious. Our agreement.
L'acteur Andy Serkis, connu pour avoir interprété Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui a ressuscité son personnage mythique pour parodier la première ministre britannique Theresa May, déguisé, il se lance dans un monologue un peu fou qu'on écoute. Zoé Sfez, le Brexit culturel.
Moi j'ai plein de très belles parodies. Il faut dire quand même, si on doit parler du Brexit culturel, que la culture s'en donne à cœur joie quand même, hein, en termes de satire. Je vous conseille vivement les Yoga Brexit de Jimmy S, mais c'est un autre sujet. Oui, alors sur les conséquences culturelles, bon, il y a deux secteurs. Si on étend les idées de la culture à celui de la recherche et de l'éducation et de la science, il y a eu énormément, et on le sait, on l'a vu, dès les débuts, dès en fait la victoire du livre, des pétitions, aussi bien du côté du cinéma que du côté de la recherche. En termes de recherche, et notamment de l'université, vous savez que il y a deux grandes écoles à Londres, le Royal College of Arts et la St Martin's School, qui sont deux écoles d'excellence en matière d'art appliqué, de mode, de musique, d'acteur, où quasiment toutes les promotions n'ont qu'un seul anglais, quasiment tous les élèves sont européens, irlandais, français. Toutes ces écoles-là avaient en plus des tarifs préférentiels destinés, ou des bourses destinées aux Européens. Donc là, il y a plein de questions qui se posent pour tous ces étudiants qui allaient aux États-Unis, oh là là, qui allaient à Londres. Question de visa, très simple. Quand vous êtes un étudiant qui aujourd'hui allait à Londres, aujourd'hui, est-ce qu'on sera sur un visa bis simple, ou est-ce qu'on sera sur un visa comme aux États-Unis où la question de l'entrée et de la sortie sera problématique pour les étudiants? Est-ce que le fait de faire payer aux étudiants européens exactement les mêmes prix que les Britanniques, alors qu'on n'est pas sur les mêmes systèmes, fera que tout cela pourra tenir? On sait aussi surtout que les programmes de recherche en Angleterre sont fortement accompagnés par les crédits européens. 1,5 milliard d'euros d'investissement dans la recherche en Grande-Bretagne pour, par exemple, l'année 2016. Donc, quid de cet argent? Est-ce que on va vers une fuite des cerveaux? Il y a eu une grande pétition il y a un an et demi de 150 universitaires britanniques qui ont vraiment appelé à une catastrophe en cas de sortie sans accord. Et puis pour le cinéma, finalement, c'est une situation un peu plus, disons, mitigée, parce qu'effectivement, il y a plusieurs problèmes. Les crédits d'impôt anglais, qui n'ont d'intérêt, n'ont de valeur et ne seraient peut-être pas reconduits s'ils sortaient de l'Union européenne. Il y a aussi ce qu'on appelle les aides régionales européennes, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des tournages en Grande-Bretagne qui ont lieu parce qu'ils ont aussi lieu en Europe. C'est le cas, par exemple, de Game of Thrones, qui a été négocié au niveau européen. Donc, il y a eu tous les tournages en Angleterre qui viennent, par exemple, de ces aides-là. Il y a aussi effectivement Media Creative Europe, qui est une des rares agences. Alors il faut quand même faire une mini parenthèse pour dire que l'Union Européenne, certes, donne pas mal d'argent dans la culture, mais que c'est un des budgets les plus faibles dans l'Union Européenne. Donc il y a quelques agences, Media Creative Europe, qui investit 30 millions d'euros dans le secteur audiovisuel britannique, mais qui en définitive n'aide que 4 à 5 entreprises de production
mais par exemple celle de Ken Loach. Donc on est en fait sur des soutiens à du cinéma indépendant britannique qui risque pour le coup de passer à l'as. Mais il est important de noter que Eurimage, qui est l'espèce de CNC européen, qui est une sorte d'avance sur recette, fait partie des agences desquelles le Royaume-Uni s'est retiré depuis déjà 10 ans. Donc de ce point de vue-là, pas tellement.
Ça changera pas grand chose.
Mais une dernière chose, et c'est probablement la chose la plus importante, c'est la question de la distribution du cinéma britannique en Europe. Aujourd'hui, le cinéma britannique, il fait partie d'une circulation européenne avec l'agence Eurimage qui lui permet en fait de circuler sans taxe et de faire partie de quotas européens. C'est le deuxième cinéma qu'on regarde le plus en France après celui des États-Unis. Et non estampillé européen, le cinéma britannique circulerait bien moins bien, en fait, dans le reste de l'Europe. Or, l'Europe est vraiment son second marché. Donc, ça pose aussi, à terme, des questions beaucoup plus lourdes, en fait, pour la bonne santé du secteur britannique du cinéma.
Emmanuel Paquette.
Oui, côté festival, il y a déjà des répercussions qui se font sentir, puisqu'au Festival d'Édimbourg, qui a eu lieu cet été, donc plutôt un festival de musique classique, les artistes ont demandé à être payés en euros et pas en livres sterling, parce qu'en fait la livre est en train de baisser fortement, ce qui n'arrange pas les festivaliers, puisqu'ils doivent prendre les risques de taux de change. Donc on voit que même dans le domaine de la culture, il y a aussi de la finance. Et puis deuxième grand axe, qui est celui des industries des festivals au Royaume-Uni en général, ils estiment que la perte pourrait être de 767 millions de livres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment 767 000 visiteurs de l'Europe qui viennent chaque année au Royaume-Uni pour des festivals, qui dépensent en moyenne 38 millions de livres pour les tickets et qui dépensent autour de 1000 livres au total lors de leur venue, donc en hôtel, pour l'achat de t-shirts. Et ils disent qu'en gros, après avoir interrogé plusieurs nationalités, il y aurait 33% des Espagnols qui ne souhaiteraient plus venir si le Royaume-Uni sortait de l'Europe. Pareil, 30% des Italiens et un quart des Français. Donc, ils disent que cela pourrait constituer une perte extrêmement importante, sans compter, en fait, les produits dérivés, donc les t-shirts qui devraient être taxés à hauteur de 12% plus 20% de TVA, par exemple, au niveau de la France. Donc, il y aurait un renchérissement en plus de tout ce qui est produits dérivés. Donc, pour eux, ça serait un désastre. Autre secteur, celui du numérique. Alors là, on parle du Digital Single Market, donc le marché unique européen. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une législation pour pouvoir attaquer les 28 pays indifféremment lorsque vous êtes une start-up. Ça permet de faire tomber les murs des différentes législations, justement, notamment avec le RGPD, c'est-à-dire le Règlement Général de Protection des Données. Si on le respecte, on le respecte directement dans les 28 pays. Donc ça facilite une start-up lorsqu'elle veut arriver en Europe. Elle a juste à se conformer à ce RGPD pour être compatible avec tous les pays. Mais qu'est-ce qu'il en deviendra pour le Royaume-Uni après la sortie de l'Europe? Ça, on n'en sait toujours rien. Donc c'est un premier point d'incertitude. Le deuxième, c'est sur la diligence des plateformes de retirer notamment des propos à la haine, des propos racistes ou même des propos terroristes en moins d'une heure. C'est aujourd'hui en pourparler au niveau de l'Europe. Mais si l'Angleterre sort, il faudra négocier un nouveau texte avec les plateformes. Donc ça sera visiblement le Royaume-Uni face à Google, Twitter et les autres, et Facebook. Et puis, dernier point, tout ce qui touche aux investissements, aux fonds d'investissement, puisqu'aujourd'hui, des fonds de capital risque sont adossés à des fonds européens, justement, pour pouvoir financer des startups. Sans compter, et j'en terminerai là-dessus, sur les chaînes de télévision, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 1000 chaînes de télévision qui ont le droit d'émettre depuis le Royaume-Uni un peu partout en Europe. Ça sera plus le cas demain. Et donc, de grands groupes, notamment américains, sont déjà en train de demander des licences, notamment en Hollande, comme par exemple Viacom, qui détient MTV, pour avoir le droit de diffuser en Europe, notamment MTV en France. Ils se sont délocalisés déjà en Hollande. Et donc, beaucoup d'autres chaînes, de grands groupes de médias, risquent de faire de même.
Nous sommes maintenant au siège social du British Council, dans le cœur de Londres. Caroline Maybe nous reçoit, elle est directrice du réseau artistique du British Council.
Je m'appelle Caroline Maybe, je suis directrice du réseau artistique du British Council et nous sommes ici au siège social du British Council, dans le cœur de Londres.
Est-ce que vous êtes au début d'une nouvelle ère, à savoir un British Council après, peut-être, le Brexit ?
Le British Council est présent partout dans le monde depuis plus de 80 ans. Et nous avons travaillé sur les relations et les échanges culturels depuis bien longtemps. Nous avons toujours travaillé avec des personnes à travers le monde entier et autour des questions d'éducation, de culture et des arts. Cela ne changera pas. Nous poursuivrons ces activités qui, finalement, sont notre ADN. et même si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne.
Le British Council est un outil de soft power, peut-être un des plus connus du Royaume-Uni. Est-ce que cette évolution européenne aura un impact potentiellement sur ses relations internationales et aussi sur son travail?
Je trouve que le soft power est un concept très intéressant, car il n'est pas possible de fabriquer du soft power. C'est une sorte de conséquence de nos activités, et au Royaume-Uni, nous avons été très chanceux des talents que nous avons eus, spécifiquement dans les arts et les industries créatives. D'autres pays ont été très intéressés par ce que nous pouvions offrir, que ce soit les films, en matière de musique, de mode, qui ont ensemble participé au soft power du Royaume-Uni.
L'attractivité artistique est beaucoup construite à travers des relations, des artistes qui sont internationaux, qui voyagent, qui discutent avec d'autres cultures, comme vous le disiez. Est-ce que ça peut changer, ça, à cause du Brexit?
Les artistes et les créateurs en général sont toujours en quête de nouvelles influences. Il n'est pas possible de les enfermer dans le moindre cadre. Ils chercheront toujours de nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Ils continueront toujours à voyager, à échanger et à se connecter avec des gens du monde entier, et cela ne changera pas. Ce qui se passe aujourd'hui entre le département des arts au Royaume-Uni et l'Union européenne n'est pas en mesure d'arrêter les artistes d'apprendre, de collaborer, de partager avec d'autres artistes. Je crois que c'est ce qui est beau avec une organisation comme le British Council, c'est justement ce qu'on fait et que l'on continuera à faire. Il est possible qu'avec les circonstances, nous soyons amenés à faire un peu différemment, mais nous ne changerons pas ce que nous savons faire de mieux. Nous allons quitter l'Union européenne, mais nous ne quitterons pas l'Europe, c'est certain. Nous resterons passionnément européens et peut-être encore plus en ce qui concerne les arts. La communauté artistique est une dimension importante avec laquelle nous dialoguons en permanence, car les gens de ce secteur sont inquiets sur l'éventuel arrêt de la mobilité entre les États membres, entre les différents partenaires européens. Mais je le redis, nous continuerons à faire ce que nous savons faire. Au contraire, il sera encore plus important pour le British Council de travailler avec les institutions européennes, avec nos homologues européens, comme l'Institut français, et avec les organismes artistiques de l'Union européenne, avec lesquels nous devrons conserver et renforcer les liens de soutien, comme les liens de respect et comme l'amour mutuel.
Our artistic community in the UK to continue to learn and work with others.
Il y a une inquiétude en Europe, mais aussi au Royaume-Uni, sur l'identité européenne, l'identité britannique, anglaise. C'est aussi le travail du British Council et des Anglais que d'essayer d'aider cette identité à se protéger.
Je crois que la question de l'identité est intéressante. Je ne crois pas en l'idée que l'identité serait qu'une seule chose qui serait figée. Chaque être humain se compose d'une mosaïque complexe d'identité basée sur le lieu où l'on vit, sur notre héritage familial, ethnique, sur les circonstances même de notre existence. Je ne crois pas personnellement qu'il existe une identité britannique. Je crois qu'il y a des choses que l'on partage, des choses que l'on est amené en tant que Britannique à mieux comprendre. Comme en France, les Français comprennent mieux certaines choses. Mais l'identité n'est pas figée ni dans le temps ni dans l'espace. De même, les débats autour du concept d'identité changent en permanence. En particulier avec les nouvelles générations qui sont plus connectées que les générations précédentes. Et donc exposé à des multiples influences, notamment concernant les questions de genre, d'ethnie ou encore d'orientation sexuelle. Je ne crois pas que ce soit le rôle du British Council de mettre en avant une quelconque identité britannique. Ce n'est pas ce que nous devons faire.
Voilà l'instant Caroline Mebi, directrice du réseau artistique du British Council, dans une traduction de Nathan Marcel Millet. On en reste là pour ce soir. On n'a pas eu le temps de diffuser deux autres entretiens. On n'a pas pu les passer, ni même passer Tina Turner, mais c'est la vie, en tout cas.
C'est pas grave.
C'est la vie de la radio. Merci infiniment à vous deux, Zoé Sfez et Emmanuel Paquette. Pour aller plus loin, référence des articles et des livres dont on a parlé durant cette émission sur le site de cette émission Soft Power, sur le site de France Culture. La semaine prochaine, en Soft Power, nous consacrerons notre émission au projet d'Emmanuel Macron et de Franck Riester en matière de politique culturelle. Et je recevrai pour en parler l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, donc pour en débattre de manière constructive, mais aussi critique. Dans un instant, Carbone 14, du magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, sera l'invité des matins de France Culture en exclusivité demain, à ne pas rater donc. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.